m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Après le prologue, le livre commence par « Il était une fois », un peu comme dans un conte. Il met en scène deux enfants, Lou et Paloma, et leur mère, Phénix, une étrange famille d'animaux blessés qui ne forment ni une meute ni un vol d'oiseaux, dont le noir destin nous est narré dans une langue pure et lumineuse, celle de la romancière mauricienne Natacha Apana, qui nous emmène par la grâce de son écriture dans une cellule de prison, un pavillon de banlieue, un appartement, une usine, le cabinet d'un médecin et d'un juge, tous des lieux qui sont autant de pierres d'angle sur le chemin d'une existence. Le ciel par-dessus le toit de Natacha Apana est paru chez Gallimard, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Natacha Apana.
Bonjour.
Tout d'abord, il y a Lou. C'est avec lui que le lecteur rentre dans votre roman. Lou, vous l'écrivez au détour d'une phrase. C'est un enfant qui n'est pas comme les autres. En quoi est-il différent ?
Lou est un garçon qui est très sensible à ce qui l'entoure, très sensible aussi au non-dit. Il a vécu dans l'amour distant de sa mère, dans le chagrin du départ de sa sœur qu'il n'a pas revue depuis 10 ans. Lou, c'est un garçon qui vit un peu à côté des choses, à côté de son quotidien, qui regarde les gens avec un œil étrange parfois, qui regarde comment leurs yeux clignent, comment leur sourire s'affaisse ou pas, qui se demande d'où vient sa couleur de peau. Et c'est un garçon qui aime courir, parce que pour parfois gérer le trop plein d'émotions, il court jusqu'à s'épuiser.
On a l'impression que vous décrivez un personnage extrêmement ouvert sur le monde, peut-être plus d'ailleurs que sur les autres. Et pourtant, vous expliquez que quand il nous regarde dans les yeux, c'est ce que vous écrivez, Natacha Apana, il nous regarde dans les yeux, mais il ne nous entend pas.
Oui, parce qu'il passe son temps à essayer de percevoir ce qu'il y a derrière vos yeux, ce que vous pensez vraiment. Et donc, il n'entend pas ce qui sort de votre bouche, mais il essaye de comprendre ce qui se passe dans vos yeux.
Lou, L-O-U-P, comme le grand méchant loup, a l'air d'emblée extrêmement fragile. Pourtant, sa mère l'a appelé ainsi parce qu'elle pensait, écrivez-vous, que ce prénom lui donnerait des forces, de la chance et une autorité naturelle. Et pourtant, c'est dans un fourgon de police que l'on le découvre, hein, direction la prison, car Lou, qui n'a jamais supporté, vous le précisez aussi, d'être enfermé, va se retrouver en cage. Il a fait une bêtise, il a pris la voiture de sa mère alors qu'il est mineur, il n'a pas le permis, pour aller retrouver sa sœur qu'il n'a pas vue, comme vous le disiez à l'instant, depuis des années. Ça va donc le conduire derrière les barreaux, il va se retrouver enfermé dans une cellule, la cellule de la prison de C, donc une ville qui commence par C, la prison de Caen sans doute,
oui,
puisque vous êtes de cette région-là, écrou 16587. Vous avez choisi au hasard ce numéro ?
Tout à fait au hasard.
Et c'est avec ces mots à lui que cet écrou 16587 commence le roman, à travers un prologue aux allures de poème écrit en italique.
Je me tiens au centre de ce que je ne veux pas nommer. Si je dis le vrai nom des choses qui habitent ici, la beauté, la tendresse et l'imagination s'envolent à travers la fenêtre. J'oublie parfois, pourtant. Voici un lit, voilà une chaise, ici une cuvette. Dehors, des bruits de bottes et des clés qui tournent. Tiens, quelque chose au coin de mon œil. C'est une blatte si noire et absolument immobile. Il y a des taches sombres sur le mur où est fixé le lit, je sais ce que c'est. Je sais comment elles naissent et si je reste ici assez longtemps, je finirai par laisser une trace moi aussi. Quelle forme prendrais-je sur le mur ? Est-ce que d'autres que moi essaieraient de deviner ? Comme dehors, on s'allonge sur l'herbe et on démasque les nuages. Il dirait « je vois, je vois ». Un chien, un insecte, un serpent. J'aimerais tant que ce soit autre chose. Un ciel, une étoile, un rêve. Derrière moi, une voix aiguë s'élève. Salaud, enculé de ta race. Je ferme les yeux et lentement, chaque chose ici laisse tomber son nom. Le mien aussi, je l'oublie peu à peu. Je ne suis rien qu'un garçon de l'ombre. Chaque son se ramasse flétri, s'éteint. Bientôt ne reste plus que le bruit blanc que fait mon cœur.
Natacha Apana, vous êtes rendue en prison pour écrire ce livre ?
Oui, j'ai commencé ce projet en voulant écrire l'histoire de Lou, un jeune homme au bord de ses 18 ans qui se retrouve en maison d'arrêt. Et je pensais que ce roman ne serait que sur lui. Après m'être documentée pendant plusieurs mois, littérature savante et non savante, tout ce qui peut s'écrire, se lire, se dire sur la prison, l'histoire aussi de l'enfermement, comment on enfermait avant, comment on enferme maintenant, est-ce que c'est pour punir, pour surveiller, pour redresser, pour rééduquer, pour réapprendre, tant de philosophies de l'incarcération ont traversé les siècles. Il se trouve que là, c'est vrai, j'habitais à Caen et le directeur de la maison d'arrêt de Caen m'a répondu par l'affirmative à ma demande et me dit que je peux venir si je veux, mais qu'il ne peut pas me donner plusieurs heures. Je peux passer une heure de temps en temps à Caen, l'organisation carcérale, c'est une organisation très militaire. On ne peut pas, comme ça, venir regarder. Moi, je ne voulais parler à personne.
Vous n'avez pas interrogé de détenus, vous n'êtes pas allé au parloir, même pas.
J'ai regardé le parloir de l'extérieur. Mais je ne voulais parler à personne. Je voulais tenter d'appréhender une atmosphère, d'appréhender un lieu, d'appréhender un climat. Et dès que j'arrive, le premier jour où je passe, je crois que le premier jour j'ai passé 4 heures, dès la première heure, je sais que je ne pourrais pas écrire ce texte-là, ce texte frontal-là, qu'il est, que le réel est trop épais, voilà les limites de mon art, et qu'il faudrait autre chose pour incarner ça, que parfois certaines choses n'appartiennent qu'à ceux qui les éprouvent.
Et alors justement, pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu dialoguer avec les détenus? Parce pour vous mettre dans la tête et dans les mots de votre personnage de Lou?
Parce que je pense que d'autres que moi le font mieux, avec un reportage, avec un documentaire, avec d'autres formes. Moi, je voulais écrire un roman. Et comme je disais, dès la première heure, je perçois cette absence dans la prison, ce sentiment d'absence, ce creux, ce silence, cette pudeur qu'on peut ressentir parmi cette cacophonie. Et dans cette maison d'arrêt, je me dis, mais je ne veux pas interroger le maintenant de Lou, le pourquoi de Lou, mais le comment de Lou. Comment on en arrive là? Est-ce que c'est une mère? Est-ce que c'est un père? Est-ce que c'est une sœur? Est-ce que c'est une mémoire familiale? Est-ce que c'est un acte pensé depuis longtemps?
Alors, il y a un vers auquel on pense tout de suite, puisqu'il y a le titre de votre roman, Le ciel par-dessus le toit, qui fait référence à un poème de Paul Verlaine, un poème qui est intitulé Le ciel est par-dessus le toit, un poème très court, c'est le 6e poème du recueil Sagesse publié en 1880. Ce vers, on va l'entendre tout de suite, c'est Qu'as-tu fait, toi que voilà, de ta jeunesse? Et c'est par ce vers, peut-être, qu'il convient d'entrer dans votre livre. On écoute le poème, on en parle juste après.
Le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme. Un arbre par-dessus le toit berce sa palme. La cloche, dans le ciel qu'on voit, doucement teinte. Un oiseau sur l'arbre qu'on voit chante sa plainte. Mon Dieu, la vie est là, simple et tranquille. Cette paisible rumeur-là vient de la ville. Qu'as-tu fait, ô toi, que voilà, pleurant sans cesse? Dis, qu'as-tu fait, toi, que voilà, de ta jeunesse?
Voilà, c'est le dernier vers du poème « Qu'as-tu fait, toi, que voilà, de ta jeunesse ?» C'est un vers qui sous-tend l'ensemble du livre, finalement, pas seulement pour le personnage de Lou.
Oui, tout à fait, parce que c'est un poème qui, pour moi, dit avec une précision et une simplicité cristalline le dedans et le dehors. Le dedans, quand son corps est entre les barreaux, et le dehors, quand tout ce qui vous échappe de votre propre vie, de cette jeunesse-là, que faire de ça, vous échappe, et que vous n'avez que vos yeux, que votre cœur pour regarder ce dehors-là.
Donc on est effectivement dans l'enfermement carcéral et puis dans le reste de l'existence, donc cette paisible rumeur qui vient de la ville, comme l'écrit Verlaine. Cette précision et cette simplicité, c'est les deux mots que vous venez d'employer pour répondre à ma question, elles vous ont été dictées en quelque sorte par ce poème, Natacha Appanah, ou bien c'est venu au cours d'écriture?
J'ai l'impression que j'avais pour ce livre-là, pour ces trois-là, comme j'aime à dire, une envie de précision, une envie de simplicité, parce que je ne pense pas que ce soit des personnages bavards, je ne crois pas.
Il y a très peu de dialogue d'ailleurs.
Il y en a
très peu. Il y en a quasiment pas. Oui.
Il y en a un quand.
Oui, plutôt dans la dernière partie du roman.
Absolument. Absolument. Ils se parlent très peu, ils se disent très peu les choses.
Et pourtant, les silences sont éloquents.
Oui, et il y a la littérature pour faire ça, pour dire le silence, pour apporter de la complexité et la nuance à ce qui se passe. Quand on n'a pas parlé à sa mère pendant 20 ans, quand on a promis d'aller chercher son frère et qu'on ne l'a pas fait, pourquoi on ne l'a pas fait ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête pour qu'on ne le fasse pas ? Quels sont les efforts qu'on fait pour habiter son propre quotidien, sa propre vie au quotidien, pour ne pas aller chercher, pour ne pas respecter une promesse ?
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec Natacha Appana qui publie Le ciel par-dessus le toit chez Gallimard, un livre qu'il convient, je crois, pour bien en saisir la sève, de resituer à l'intérieur de votre parcours et de votre œuvre, Natacha Appana. J'ai donc demandé à Fanny Blechner de nous brosser en quelques traits votre portrait.
Et pour brosser ce portrait, je me suis plongée dans les différents articles qui évoquent votre travail. Dès les toutes premières lignes, il est systématiquement question de votre origine, non pas sociale, mais géographique. Vous êtes née à plus de 9000 km de ce studio, dans l'océan Indien, sur l'île Maurice, en 1973. Vous passez ainsi vos 25 premières années entourée de lagons à l'eau turquoise, sur cette île aux allures de carte postale. Votre famille y est arrivée deux générations plus tôt. Ce sont vos grands-parents qui sont venus d'Inde pour travailler dans les champs. Votre grand-mère n'osera plus parler sa langue maternelle, le télougou. La langue, c'est le souffle de l'écrivain. Sur cette île, on parle le créole mauricien et l'anglais. Vous, vous choisirez le français pour écrire. Vous nagez de l'une à l'autre de ces langues et cette agilité vous sert dans votre travail de traductrice. C'est donc en français que vous évoquerez l'histoire de votre famille. Le roman s'appelle « Les rochers de la poudre d'or » et vous le publiez en 2003, depuis l'Hexagone. En effet, vous avez quitté l'île Maurice en 1998, mais aussi votre famille et vos amis pour poursuivre votre carrière, une carrière de journaliste en presse écrite pour Géo Magazine, mais aussi des reportages sur les ondes pour Radio Suisse Romande, France Culture et même RFI. Vous écrivez aussi pour La Croix, toutes les semaines, 5000 signes en dernière page, pour évoquer la vie du quotidien avec ce qu'elle peut avoir de poésie, mais qui pose aussi des questions purement littéraires, portant aussi bien sur le métier d'écrivain que le classement d'une bibliothèque ou encore la rentrée littéraire. Ces textes quittent ensuite les pages du journal pour rejoindre la maison d'édition Gallimard et sont rassemblés l'an dernier sous le titre « Une année lumière », une sorte de pont entre vos deux professions. C'est sans doute aussi cette double approche qui vous pousse à écrire sur l'île de Mayotte. Et vous vivez dans ce département pauvre de l'océan Indien entre 2008 et 2010. Mais vous décidez d'y retourner grâce à une bourse pour écrire un roman sur les jeunes du bidonville de Gaza. Votre approche est journalistique puisque vous allez réellement à leur rencontre, mais vous choisissez la forme d'une fiction polyphonique. Vous expliquez que votre couleur de peau, elle est caramel, vos cheveux noirs de jais et vos yeux bruns au reflet de terre brûlée. Cette apparence donc a sans doute facilité votre approche des jeunes Mahorais. Tropique de la violence reçoit le prix Fémina des lycéens, le prix Patrimoine, le prix France Télévisions, le prix Jean-Amila Meckert, le prix du roman métis des lecteurs et le prix des lycéens Folio. Ils viennent s'ajouter aux autres prix reçus durant vos 16 années d'écriture, parsemés de 10 romans, parmi lesquels Blue Bay Palace ou encore Le Dernier Frère. Romancière, journaliste, vous êtes aussi lectrice professionnelle. Vous avez travaillé pour les éditions Gallimard, recevant une dizaine de manuscrits par mois. En tant que lectrice à titre personnel, vous aimez Albert Camus, Annie Ernaux ou encore Amin Malouf. Pourtant, vos titres ne sont pas rangés à leur côté dans les grandes librairies. On les retrouve plutôt au rayon littérature francophone. Une distinction qui ne vous plaît pas. Vous revendiquez à plusieurs reprises une langue archipel.
Ça veut dire quoi, Natacha Appana, une langue archipel ?
Ça veut dire qu'une langue qui n'existe pas dans un endroit donné, c'est une langue vivante, une langue qui se meut, une langue qui évolue, une langue qui n'est pas attachée à un lieu géographique. Là, on parle du français, le français n'appartient pas qu'à l'Hexagone, le français appartient aux Wallisiens, comme il appartient aux Réunionnais, comme il appartient aux Mahorais, comme il appartient aussi, je crois que la plus grande ville francophone aujourd'hui, c'est Kinshasa. Donc voilà, c'est une langue qui vit et qui se développe, et heureusement, hors des frontières, de ses frontières originelles.
Et la langue de Natacha Appanah est une langue métissée ?
Je ne sais pas ce que ça veut dire, la langue métissée. C'est pas des questions que je me pose.
Une langue vivante, tout court, dirons-nous.
Bien sûr, c'est une langue vivante, c'est une langue que j'essaye de faire vivre à chaque texte. Et une langue n'est une langue que au creux d'un roman. Je dis ça parce que souvent la façon dont le texte va s'écrire dépend aussi du cadre géographique, émotionnel, social du roman, mais dépend aussi des personnages, dépend aussi de la voix avec laquelle vous allez faire évoluer ces personnages-là. Donc elle est à chaque fois une entreprise à elle seule, cette langue-là, puisqu'on ne Je ne pourrais pas utiliser la même langue que j'ai utilisée pour Le ciel par-dessus le toit pour un prochain texte. Il n'aurait pas de sens, sauf à écrire une continuité ou à refaire la même chose.
Alors, est-ce que vous n'avez pas été tentée, Natacha Appanah, de dire « je » et de dire un « je » qui change, justement, par rapport à vos différents personnages, par rapport aux trois principaux personnages, Lou, Paloma et Phénix? Pourquoi avez-vous décidé d'écrire la troisième personne alors que vous venez de me dire, Natacha Appanah, que la langue dépend précisément du personnage, donc dépend du jeu?
Non, pas du tout. Elle peut aussi s'incarner dans un narrateur omniscient. Et le narrateur omniscient, pour moi, dans ce texte-là, il a été extrêmement difficile parce que je le voulais, en effet, distant, mais pas trop.
Alors, comment trouver la bonne distance ?
J'ai envie de vous dire que c'est le travail. Mais c'est pas tout à fait faux, parce que c'est un texte qui m'a pris, ou dans lequel j'ai avancé très très lentement, parce qu'il fallait que le narrateur soit omniscient, omnipotent, mais qu'il ne soit pas démonstratif, qu'il ne vous dise pas ce que vous n'avez pas envie de savoir, qu'il n'aille pas sous les voiles, sous derrière les ombres, et qu'il vous dise au plus près des cœurs et des corps.
Au plus près, notamment donc du personnage de Lou, parce que vous disiez il y a un instant que vous ne vous étiez pas posé la question du métissage de la langue, mais Lou, il est métisse. Il est caramel, pour reprendre le mot qu'a employé Fanny à l'instant dans son portrait. Pourquoi avez-vous fait de Lou un métis ?
En vérité, c'est insidieux, ces thématiques-là, dans mes livres. Je me souviens, quand j'écris cette phrase, qu'il est ni noir ni blanc, que sa peau se cuivre au soleil, je me suis dit, ah, tiens, ça revient. Comme si, malgré moi, il y a certaines choses dans mon roman qui se teintent, qui se colorent, alors que je ne les attaque pas, enfin je ne les écris pas de façon frontale, mais ils sont là.
Ils sont là. Alors vous êtes mauricienne d'origine, oui. On l'a dit, une île sur laquelle on parle le français, on parle le créole mauricien, on parle l'anglais aussi. Est-ce que vous êtes justement une écrivaine, j'allais dire, de l'entre-deux, mais presque de l'entre-trois, Natacha Appanah?
Je crois que je suis, mon imaginaire est en français, alors que je lis en anglais beaucoup, que il m'arrive d'écrire de temps en temps en anglais d'autres textes, de la poésie. Je parle le créole, je parle un peu une langue indienne, mais il y a dû avoir une cristallisation très jeune chez moi autour du français, avec le français que j'ai parlé à la maison aussi. Ce n'est pas une langue qui m'a été imposée à l'école seulement. Je crois que là, c'est important aussi. C'est une langue qui n'a pas que ses atours scolaires ou ses atours de quelque chose qui serait cadré, qui serait imposé à un enfant. Moi, je l'ai entendu à la maison. Donc, elle peut avoir aussi un côté intime, un côté sentimental, et j'ai l'impression que je suis un écrivain de langue française, sans que ce soit réducteur, sans que ce soit sujet à plusieurs interprétations.
La langue, Natacha Appanah, c'est une question d'identité.
Mais comme l'identité, elle est multiple, je dirais que la langue aussi est multiple. Alors, À ce moment, on peut décliner ce que c'est une langue. On peut dire que c'est également un langage, que c'est également une façon de communiquer, et que c'est également ce qu'on en fait de cette langue-là. Pour revenir peut-être au texte, la langue est quasiment absente entre les trois. Ils parlent une autre langue, ils parlent de ce qui n'a pas été dit, et c'est un langage entre eux, ce n'est plus une langue.
Donc un langage entre des identités. Alors justement, oui. on va s'attacher un petit instant à ces identités, justement, parce que les personnages, ils s'appellent donc Lou, il y a la sœur Paloma, il y a la mère Phénix. On est donc avec trois personnages qui portent des noms d'animaux, un animal terrestre, et puis deux oiseaux, hein, comme l'oiseau qui chante sa plainte dans le poème de Verlaine. Comment est-ce que vous avez choisi les patronymes de vos héros?
Phénix s'appelait Elliot avant. C'était une petite fille avec une enfance terrifiante. Ses parents l'ont mise en scène, habillée. Et quand elle a décidé de reprendre possession de son corps, comme on reprend possession d'un destin, enfin, ainsi croit-elle, ainsi croit cette petite fille qu'elle peut prendre possession de sa vie en changeant de nom. Elle fait quelque chose que je ne vais pas dévoiler ici. Et quand elle sort indemne de cette chose-là, elle décide de s'appeler Phénix. Et en prenant le nom de cet animal mythique, cet animal qui renaît de ses cendres, elle se dit que ce nom va marquer son existence. D'ailleurs, elle le marque, elle, sur son corps, comme elle se tatoue. Et pour ses enfants, Elle a tenté de symboliser ce que c'est qu'un prénom qu'on donne à son enfant. À sa fille, elle a voulu donner des ailes, Paloma. À son fils, elle a voulu donner des griffes et une gueule, comme un loup. Et je me suis dit que c'est exactement le genre de femme à faire cela, à symboliser comme ça les prénoms, mais après à croire que ces choses-là suffisent.
Et pour brosser ce portrait, je...
Prends-moi le pouls et dis-moi ce qu'il en est. La vie m'a pris autant qu'elle m'a donné. Avec le temps, elle m'a appris à sourire autrement. Parfois pour me cacher, parfois pour figer l'instant. Ces souvenirs qui nous rappellent tout ce qui est tendre. Ces cicatrices qui rappellent ces chemins à ne plus prendre. Ce passé qu'on s'essouffle à rattraper. Pire, ce passé qu'on s'efforce d'effacer. Car on a tous des secrets bien cachés dans le regard. Ces déceptions amoureuses qui nous ont fait monter la garde. Tous ces secrets de famille beaucoup trop lourds à porter. Toutes ces phrases douloureuses qu'on n'a jamais su digérer. Ces rêves d'adolescent que la vie d'adulte nous a volés. Tous ces gestes inconscients qu'on regrettera jamais. Toutes ces peurs qui nous empêchent, ouais, d'aller de l'avant. Toutes ces larmes que l'on sèche avec le mouchoir du temps. On vit avec ces émotions en oubliant que leur l'horloge tourne, non, le présent ne fait pas de ristourne. On l'achète comme il est, avec ses bons et ses mauvais côtés. Moi, je dépense tout ce que j'ai à essayer de faire le bien du mieux que je peux. Me rapprocher des cieux, ouvrir les yeux sur tout ce qui m'est vraiment précieux. Jouer le jeu et bâtir mon monde à deux. Faire le vœu d'entretenir le feu qui décongèle ce cœur si précieux. Je ne suis qu'un homme, des erreurs j'en ai faites. Même avec toute ma bonne volonté, des erreurs j'en referai. Combien de fois ai-je fait ce que je m'étais promis de ne jamais faire? Combien de fois ai-je confondu mon paradis et mon enfer? Tu sais, je suis parfaitement imparfait. Mais quand je te mets au parfum, je pue la sincérité. Mon arc-en-ciel a peut-être du gris, mais je suis le paratonnerre de ma famille. Car la météo du monde s'assombrit. On cherche à éclairer une bougie dans cette noirceur. Pourtant, le briquet est souvent caché dans nos cœurs. Quoi qu'on fasse, vivre sera toujours un risque. Mais dis-toi qu'à chaque lever du soleil, nous sommes tous des phénix. Nous sommes tous des phénix. Nous sommes tous des phénix. Toi, moi, lui, elle. Nous sommes tous des phénix.
Soprano sur RFI, prélude du Phénix dans VMDN avec Natacha Appana pour son roman Le ciel par-dessus le toit, paru aux éditions Gallimard. Alors, je ne sais pas si nous sommes tous des Phénix, Natacha Appana, mais tiens, si j'ai envie de vous poser la question quand même. Sommes-nous tous des Phénix?
Bon, je crois que c'est une question très personnelle. à répondre dans l'intimité.
Dans l'intimité et pas à la radio. Bon, en tout cas, Phénix, c'est le prénom donc de la mère de Lou. C'est en fait son second prénom, vous le disiez tout à l'heure, puisque Phénix s'appelait à la naissance Eliette, qui donc a brûlé, en quelque sorte, pour renaître de ses cendres. Alors, quand on dit le mot Phénix, Natacha Epana, on pense à la lumière. D'ailleurs, il se trouve que le mot Phénix, en grec, fait référence à un rouge éclatant, un rouge extrêmement lumineux, extrêmement intense, incandescent, effectivement. Et Phénix, votre personnage, il a plus brillé quand il s'appelait Eliette que après. Son éclat s'est terni, en fait. Natacha Epana, une forme d'inversion, là.
Je ne sais pas, je crois qu'elle porte encore une lumière froide, elle reste magnifique. Elle essaye de baisser un petit peu le volume, l'éclat de cette lumière-là, parce qu'elle s'habille en noir, elle se teint les cheveux, ensuite elle se tatoue de la tête aux pieds, mais elle le garde. D'ailleurs, tous ceux qui la rencontrent, le docteur Michel, qui va être son médecin, gardent d'elle une sorte d'image presque mythologique, d'une beauté magnifique. Moi, je crois qu'elle garde cette lumière-là, mais cette lumière-là est glaçante et un peu froide comme ça.
Oui, alors que pendant son enfance, elle l'a vécu sous les projecteurs, sous les lumières, hein, dans une atmosphère extrêmement pailletée, hein, une petite fille qu'on habille, qu'on apprête, qu'on maquille. Est-ce qu'on lui a volé son enfance?
Ah, bien sûr, d'une certaine façon. Oui, absolument. Mais on lui a imposé de chanter, on lui a imposé de se donner en spectacle. Sa mère était couturière, donc elle lui confectionnait des robes froufroutantes, roses et jaunes, des robes qui s'ajustaient de plus en plus à son petit corps qui grandissait. Et du salon de la maison familiale, elle va sur la scène de l'usine de son père, et ce qui est, je dirais, nuancé, en tout cas que j'espère nuancé, c'est que ses parents ne pensent pas à mal.
Ah, pas du tout, au contraire, ils veulent, au contraire, que, bah, ils sont fiers d'elle et ils veulent l'exposer, en quelque sorte, mais au risque finalement de l'étouffer
parce que quand elle naît à ses parents-là, ils sont tellement surpris de sa venue,
cadeau du ciel.
Ouais, exactement. C'est un cadeau précieux et c'est comme rendre un peu ce cadeau-là aux autres, et ils ne pensent vraiment pas qu'ils font quelque chose de mal ou qu'ils font quelque chose d'un peu exagéré, d'un peu violent, d'un peu sournois. Et surtout, il ne demande jamais à Eliette, est-ce que tu veux chanter? Est-ce que tu veux sourire? Est-ce que ça te plaît de chanter, de te donner un spectacle? Et cette petite fille ne reçoit de cette éducation, enfin, qu'une violence, qu'une impression d'être prisonnière dans son propre corps, dans sa propre enfance, et de n'arriver à en sortir de cette enfance-là que en restant dans sa chambre, dans sa cabane, à imaginer les choses les plus horribles qui soient, alors que la cabane de l'enfance est une cabane à l'imagination virevoltante. C'est une cabane où on imagine des elfes, des anges, des choses. Elle, non, elle imagine de elle imagine tout fracassé, tout cassé, et elle y arrivera.
Alors il y a ce traumatisme d'enfance à 11 ans, on ne va pas dire précisément de quoi il s'agit, mais c'est vraiment évidemment un moment clé, comme il peut y en avoir dans la vie de tout enfant, hein, malheureusement, ou heureusement, parce que parfois il y en a aussi qui sont des révélateurs et qui sont des moments extrêmement, extrêmement féconds. Mais ce traumatisme-là, les parents, toujours eux, n'ont pas vu. Ils n'ont pas compris. Ils ont eu tout faux, hein, ces parents. Quoi. C'est très étonnant, Natacha Epana, parce que ils aiment profondément leur fille, mais on a l'impression qu'ils n'ont rien compris.
Oui, mais c'est une question, moi, qui me travaille beaucoup. C'est Comment aimer correctement ses enfants? Comment aimer ses enfants comme ils souhaiteraient être aimés? À la mesure de leur identité, vous parliez tout à l'heure d'identité, à la mesure de l'époque, à la mesure de leurs rêves et de leurs désirs. Et ses parents n'ont rien vu. Ils pensaient lui faire plaisir, ils pensaient que toutes les filles aiment chanter, se donner en spectacle. Et ils ont été aussi aveuglés par la réponse à la mise en scène d'Eliott. Elle avait du succès. Elle était complimentée. Et ce succès-là rejaillissait également sur eux. Donc c'est une manière un peu égoïste également d'élever son enfant. Ils ont tout faux. Mais le grand-père, en tout cas le père d'Eliott, Georges, essaye de se rattraper avec sa petite fille.
Oui, tante. Il est totalement désarçonné hein, par ce qui s'est passé. Il comprend pas.
Oui.
Et c'est vrai que les personnages sont extrêmement forts, vivent souvent, Natacha Appanah, des vrais drames intimes qui peuvent les marquer après pour leur vie. Mais vous ne les jugez jamais. On parlait de la distance.
Mais heureusement,
tout à l'heure.
Je crois que le romancier, la romancière n'est pas là pour ça. Le roman, la fiction, elle est là pour...
Pour poser des questions davantage que pour apporter des réponses?
Pour complexifier, pour donner la nuance, pour dire, pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'une bonne mère, qu'est-ce qu'une mauvaise mère, qu'est-ce qu'un enfant idéal? Non, ça n'existe pas. Enfin, je ne crois pas. C'est pour donner la mesure de ce que c'est qu'un quotidien accolé à l'ombre du passé, accolé à la mémoire sélective de chacun d'entre nous. C'est d'essayer d'ouvrir les choses plutôt que de les refermer.
Chaque personnage est dépositaire du passé, du passé des autres, du passé de ses parents.
Oui.
Du passé de ses arrière-grands-parents aussi, on a l'impression, en vous lisant, qu'il y a un poids comme ça qui devient en permanence plus important. C'est un petit peu comme une malédiction. Il y a la dimension religieuse dans le mot, ça correspond peut-être pas tout à fait à ça, même si Verlaine, lui, a aussi un peu rencontré Dieu à nouveau en prison. Mais il y a cette dimension-là, Natacha Appanah.
Alors je sais pas si c'est un poids, si c'est un fardeau, mais je sais que pour ces trois-là, en tout cas, c'est quelque chose qu'ils traînent. Et sans le savoir, parfois ils font exactement le contraire. Par exemple, Paloma, quand elle est jeune femme, elle est dans l'attention permanente aux petites choses de la vie. Elle achète des fleurs, elle décore son appartement, elle vit de façon extrêmement discrète, presque immobile, mais elle fait attention à cette beauté fragile et délicate. Alors que sa mère a fait exactement le contraire. Sa mère a tout cassé, sa mère a tenté d'éloigner par tous les moyens cette beauté-là qu'elle portait sur sa peau, qu'elle porte encore sur sa peau. C'était intéressant de mettre en parallèle cette mère et cette fille qui font, sans se le dire, sans jamais se raconter cela, exactement, en miroir, l'exact contraire.
Nous sommes page 29 de votre roman.
Son appartement se trouve au troisième étage, dans une petite résidence en retrait de l'avenue qui traverse la ville. Mais la vie du soir tombant lui parvient. La rumeur des voitures, la cloche du tramway à l'intersection, le rideau électrique du parking qui s'ouvre en grinçant et se referme en chointant, les pas pressés dans le couloir de l'immeuble, quelques cris d'enfants qui jouent. C'est la fin du printemps et elle sait que les gens de son âge sont dehors, allongés sur l'herbe des parcs désormais ouverts tard, déambulant sur les grandes places pavées, assis en terrasse sur des chaises en osier vernis, les corps tournés les uns vers les autres. Mais elle n'est pas comme ça, Paloma. Elle se tient à l'écart, un pas de côté, toujours, comme prête à se glisser dans un coin d'ombre. Cela lui vient de loin, cette manière d'être, mais dans ce crépuscule parfait, elle est loin de ces souvenirs-là. Elle se dit que si elle avait un petit balcon, elle aurait installé une chaise, une table, quelques plantes vivaces, et elle se serait tenue là, ni dedans, ni dehors, et ça lui aurait suffi. Debout devant sa fenêtre, elle perçoit la mélancolie qui accompagne toujours cette heure bleue. D'où émerge ce sentiment, se demande-t-elle? Est-ce le mélange de tous les sentiments du soir? Petits et grands, beaux et laids, fades et puissants? Sur la table, il y a un bouquet d'anémones qu'elle avait acheté l'avant-veille au vendeur sur le quai du tram. Paloma avait placé les anémones dans un verre à bière parce qu'elle n'a pas de vache chez elle. Bien qu'elle aime beaucoup les fleurs, elle préfère les bocaux vides, les cruches aux bords ébréchés, les verres à moutarde. Elle remarque alors en s'approchant que le cœur de chaque anémone a foncé et qu'autour de chaque cœur, il y a de la poussière bleue. Elle se penche sur elle, émerveillée de ce qu'elle découvre. C'est bien la première fois qu'elle remarque ce changement de couleur, bien que ce ne soit pas la première fois qu'elle achète des anémones sur le quai du tram. Et elle chuchote « C'est beau bleu !» Doucement, gentiment, elle sourit encore et c'est le même effet que le chatoyant de tout à l'heure. Et même si c'est bancal, c'est une phrase sincère qui sort de sa bouche et ce n'est pas rien. Plus tard, peut-être qu'elle reformera ses mots sans bruit pour se rappeler qu'elle a été une fois dans sa vie capable de parler aux fleurs, de dire quelque chose comme ça, quelque chose qui n'est de sens que dans l'instant, qui n'est de beauté que dans son imperfection.
Natacha Appanas, c'est vrai que c'est ce qu'on disait à l'instant, juste avant d'entendre cet extrait. Paloma voit la vie, vit sa vie de façon extrêmement différente que sa mère, que sa mère Phénix. Et c'est vrai que d'un chapitre à l'autre, même si vous n'utilisez pas le jeu, même si vous écrivez avec cette narratrice qui est à distance respectable, mais à distance tout de même de vos personnages, vous n'écrivez pas de la même façon d'un chapitre à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une narratrice Paloma, une narratrice Phénix, une narratrice Lou, etc. etc. Comment est-ce que vous avez pu prendre la main de chacun de vos personnages, comme cela?
Avec beaucoup de lenteur, je dirais. En essayant à chaque fois de donner, tout en avançant dans l'histoire, parce que je ne voulais pas que chaque personnage s'exprime sur la même chose, sur le même événement. Je voulais que l'histoire avance en donnant à voir ce que ce personnage-là, à ce moment donné-là, a vu de cette chose-là, de cet événement-là, avec son regard à lui. Et à chaque fois, quand j'avançais, par exemple, il y a cette scène où il y a le coup de fil, en réalité, il y a Phénix qui est chez elle et qui reçoit ce coup de fil où elle apprend que son fils est en prison et que son fils ne veut voir qu'une personne, c'est Paloma, et qu'elle doit prendre la décision de téléphoner à sa fille qu'elle n'a pas revue depuis 10 ans. Donc là, c'est Phénix dans sa vérité, je dirais, dans son acuité la plus éclatante. Elle est seule, d'ailleurs elle ne supporte pas, elle va s'envoyer 2-3 verres de whisky, elle va dormir, et quand elle se réveille d'un songe un peu étrange, elle va téléphoner à sa fille. Et tout de suite après, il y a une autre ambiance qui est l'ambiance de sa fille, l'extrait qu'on a vu, qui est une ambiance presque sereine, presque harmonieuse, et je voulais aussi montrer que ce n'est pas arrivé par hasard, que Paloma a travaillé pour arriver là. Elle s'est extirpée de la maison de cette mère qu'elle trouvait si glaçante, cette maison qu'elle trouvait moche, ce jardin avec un creux qu'elle trouvait effrayant. Elle s'est extirpée de là pour faire de sa vie quelque chose qui n'appartienne qu'à elle.
Et pourtant, Natacha Appana, Paloma a voulu construire sa propre vie, Phénix a voulu l'a changé en changeant de nom, elle a voulu tourner la page, effacer son destin. Paloma aussi d'ailleurs, hein, en quittant la maison, a aussi voulu tourner la page. Elle a voulu y échapper, elle a voulu prendre le large. Peine perdue?
C'est pas peine perdue, mais l'enfermement de Lou, de façon ironique, comme souvent est la vie, va leur permettre de se parler, de faire quelque chose qui ne soit pas concentré sur elles-mêmes, sur leur chagrin, sur leur colère, comme elles aiment toutes les deux Lou profondément, sincèrement. Elles vont par l'enfermement physique, l'incarcération de Lou, elles vont tenter par tous les moyens de l'extirper à ce moment, en se joignant les mains, de l'extirper lui de sa prison. Donc ce n'est pas peine perdue.
Donc c'est l'enfermement de Lou qui génère l'ouverture des autres.
Oui, qui en tout cas le début d'ouverture, le début de ce pas de côté qui n'est plus centré sur leur histoire d'avant, sur ce qui s'est passé avant, mais sur le maintenant, sur ce dedans-là et ce dehors-là.
Mais alors justement, avant, et puis maintenant. Il n'y a pas de chronologie très précise dans votre roman. On est en permanence entre présent et passé. Vous nous racontez des tranches de vie des différents personnages. Un mot peut-être sur les titres des chapitres, Natacha Appanah, parce qu'ils sont un petit peu comme Lou, ils sont un peu étranges. On a presque envie de les compléter. Il y a par exemple Lou comme l'animal. Un autre titre, Le grand-père quand il est trop tard déjà. Le jour coupé en deux. Ou alors 10 ans plus tard, lundi. Comment est-ce qu'ils sont venus sous votre plume, les titres des chapitres? Parce que c'est très perturbant pour le lecteur de découvrir le titre d'un chapitre. Parce que parfois, on nous annonce ce qu'on va lire, parfois on résume ce qu'on va lire dans les titres des chapitres. Là, c'est différent.
Mais vous m'aidez parce que je ne voulais pas du tout annoncer, ni synthétiser, ni décrire. Je voulais donner comme un morceau de quelque chose, comme un morceau de mémoire, un morceau de souvenir. Ce sont des phrases qui sont extraites du chapitre qui va suivre, mais qui sont comme sorties de leur contexte. Et dans ce récit-là, le contexte est important, parce que le contexte, il est toujours décentralisé, il est toujours ailleurs. Par exemple, le contexte de Georges, le père, c'est un contexte alors qu'il a les il est vieillissant, il attend sa petite fille, c'est un contexte où il est dans l'attente, mais son contexte à lui, quand il était avec sa petite fille, il n'en parle qu'avec une mémoire sélective, une mémoire non plus de père, mais une mémoire de grand-père. Et je trouvais que annoncer à chaque fois les chapitres hors contexte, mais j'espère qu'ils prennent leur sens après la lecture du chapitre. C'est comme prendre la main en disant « ferme les yeux ».
Mais c'est vrai que vous prenez aussi la main à votre lecteur, Natacha Appanah, parce que votre langue, elle est très sensuelle, elle est très poétique, très simple aussi, vous avez utilisé ce mot vous-même tout à l'heure, et pourtant, cette langue, elle décrit très souvent des moments, des vécus d'une extrême violence. On a un peu l'impression que vous avez tout fait pour ne pas en rajouter. Juste dire, et puis laisser les mots s'envoler, aller jusqu'à la tête ou jusqu'au cœur de vos lecteurs.
En tout cas, les dire de la façon la plus juste possible. Nous avons, je crois, parlé de simplicité, de sincérité, mais il y a aussi quelque chose, je crois, qui est important dans une œuvre de fiction, c'est la justesse. C'est que ce mot-là, à ce moment précis, de ce personnage-là, soit au plus juste. Et il est vrai que j'ai chassé toute coquetterie à mesure que j'avançais dans
ce
texte.
Vous avez écrit avec une gomme ?
Presque, presque, parce que j'avançais très lentement et à chaque fois que je sentais que j'étais contente de moi, je m'arrêtais parce que si j'étais contente, c'est que j'avais écrit 2-3 phrases de trop ou 2-3 mots de trop et c'était vrai.
Natacha Appanah, il y a quelques années, maître Thierry Lévy, qui était un grand avocat pénaliste parisien, a écrit un livre intitulé « Nos têtes sont plus dures que les murs d'une prison ». Est-ce que vous êtes d'accord?
Je suppose que nous pouvons... Est-ce que nos têtes sont plus dures que les murs d'une prison?
Et si nos propres murs étaient plus durs encore que ceux d'une prison? Mais, l'enfermement que l'on se crée soi-même.
Il y a l'enfermement, mais il y a l'empêchement aussi. C'est un livre sur aussi les différents types d'empêchements et les barrières qui ne sont pas des barrières physiques, qui sont autre chose que des murs et des barbelés qu'on se met soi-même. Et en effet, parfois, c'est... plus, je dirais pas que c'est plus difficile, mais c'est plus long à s'en dépatouiller, à essayer de faire la paix et l'harmonie avec ça.
Merci beaucoup, Natacha Appanah.
Merci à vous.
Le ciel par-dessus le toit, paru, je le rappelle, aux éditions Gallimard.
Vous m'en direz des nouvelles ?
Avant de se quitter, un anniversaire, celui du Lucernaire qui souffle ses 50 bougies, un lieu de culture situé dans le 6e arrondissement de Paris et qui regroupe un cinéma d'art et d'essai, 3 salles de théâtre, un bar-restaurant, une librairie et même une école de théâtre installée dans une ancienne usine de soudure spécialisée dans les chalumeaux. Le théâtre est à l'origine de nombreuses créations, des auteurs comme Ionesco ou Horowitz y ont notamment fait leurs armes. Alexis Bédu s'est rendu ce week-end aux festivités organisées pour marquer cet anniversaire. Reportage.
Merci à vous d'être venus si nombreux pour célébrer ensemble le 50e anniversaire de notre cher Lucernaire.
Sur la scène du Théâtre Noir, l'une des trois salles du Lucernaire, les élèves de l'école d'art dramatique du lieu jouent des textes ayant déjà résonné dans ces murs par le passé.
Criez autant que vous voudrez.
Miser sur la création et sur la jeunesse, c'est un des leitmotifs de Benoît Lavigne, directeur artistique du théâtre depuis 4 ans.
Le Lucernaire, c'est 7 spectacles par jour, c'est des dizaines d'équipes artistiques qui se côtoient et qui se croisent, donc de tout âge, des jeunes compagnies, des artistes plus confirmés. Le Lucernaire, ça veut dire, ça vient du mot latin lucernarium, c'est le moment où on allume les lampes. Et donc tous les soirs, on essaie de recréer comme ça, d'allumer les lampes quand la nuit tombe et de donner à entendre des textes, des émotions, de la magie du spectacle au public.
En 1977, le théâtre du Lucernaire, fondé 8 ans plus tôt, s'installe dans une ancienne usine de chalumeaux située au cœur de Paris, entre le bouillonnement du quartier Montparnasse et la tranquillité du jardin du Luxembourg. Il voit défiler des centaines d'auteurs et de comédiens, le plus emblématique d'entre eux désormais disparu, Laurent Terzieff, qui était particulièrement attaché au lieu.
Comme vous le savez, mon travail porte essentiellement sur le théâtre contemporain. Nous voudrions qu'il soit le reflet le plus immédiat de la vie des hommes. Et cela, par les moyens spécifiques du théâtre. Le texte, d'abord.
C'est en partie en venant au Lucernaire qu'Arthur Radiguet, ancien élève de la jeune école d'art dramatique, a voulu devenir comédien.
Bah, c'est un lieu qui est magique, qui est vraiment plein d'émotions. Je me rappelle la première fois que je suis arrivé ici, c'était j'avais vraiment des paillettes dans les yeux. Et c'est incroyable, c'est un lieu qui est extrêmement vivant, qui est plein d'opportunités parce qu'il y a toujours des troupes, il y a 3 spectacles qui jouent tous les soirs minimum, c'est incroyable. C'est vraiment une seconde famille.
Pour la metteuse en scène Sarah Gabriel, dont la pièce est actuellement à l'affiche du Lucernaire, c'est un lieu fidèle et courageux.
Ils sont prêts à prendre des risques. Ça, je trouve que c'est vraiment de plus en plus rare, quel que soit le théâtre. Alors, le théâtre privé, n'en parlons pas, mais malheureusement, presque aussi certains théâtres publics qui prennent plus ce pari. Voilà, et on a tendance à chercher la facilité en espérant, et on se trompe souvent, que le public sera nombreux et donc que ça fera de la recette. Voilà, le Lucernaire n'est pas dans ce rapport-là. Il est dans un vrai rapport artistique avec les compagnies. Donc, c'est un lieu rare.
Dans un des nombreux vestibules, deux comédiennes venues en spectatrices discutent. Elles sont toujours sous le charme de l'endroit.
Ça bruise de plein de choses. Donc c'est un endroit très riche, foisonnant, très sympathique, chaleureux. Parce qu'il y a aussi le bar, le restaurant. Allez, donc tout ça est très convivial.
On était exactement en train de dire ça avant que vous arriviez avec le micro.
Voilà,
c'est que c'est un lieu où on est toujours content de revenir,
qui
foisonne et sa vie. Et voilà, moi j'y ai joué 2 fois et c'était un plaisir. Et j'espère rejouer.
Voilà, on espère tous rejouer.
Revenir jouer au Lucernaire ou simplement y voir, y entendre, y découvrir, mais continuer chaque soir à y allumer les lampes de la scène.
Le reportage d'Alexis Bédu. Dans un instant, l'info sur RFI. Bravo à nos gagnants du jeu de jeudi dernier. Abia Sokoy de Dakar, Cédric Baïmpoundou de Bujumbura, Abdoulaye Alousseini de Bamako, Fawaz Yesoufou d'Abomey-Calavi et Ibrahim Soré de Ouagadougou. Ils recevront le livre de Myriam Leroy, Les yeux rouges. La bonne réponse était journaliste à la radio. On se retrouve demain pour du théâtre avec une bonne dose de rire. Et Joe, la pièce d'Alec Coppel avec un joyeux trio Didier Bourdon, Audrey Fleurot et Dominique Pinon et quelques autres comédiens efficacement mis en scène par Benjamin Guillard. C'est actuellement au Théâtre du Gymnase à Paris et vous m'en direz des nouvelles.